Merci.
Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute, littérature, Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Gaumeau, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Jean-Frédéric, réalisation Thomas Beau. Autour de moi ce soir, Raphaël Léris et Jean-Christophe Brianchon, mais sans Alexandre Comte qui a dû déclarer forfait au dernier moment. On va lui souhaiter un prompt rétablissement. Sans lui, nous parlerons donc de La seule histoire de Julian Barnes au Mercure de France, Mauvais joueur de John Didion chez Grasset, Ce qui t'appartient de Garth Greenwell chez Rivage, et en raison de cette défection d'un de nos critiques, deux coups de cœur ce soir. Celui de Raphaël Léris pour Emmanuel Carrère, Faire effraction dans le réel, ouvrage publié sous la direction de Laurent Demanze et Dominique Rabaté chez POL. Et puis le coup de cœur de Jean-Christophe Brianchon pour Seul l'amour peut te briser justement le cœur, de David Samuel aux éditions du Sous-sol. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Chagall, du noir et blanc à la couleur, jusqu'au 24 mars à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence. Nous ouvrons cette dispute avec La seule histoire de Julian Barnes, publiée au Mercure de France dans une traduction de Jean-Pierre Austin. De quoi s'agit-il? Les premières lignes du roman vous renseigneront. Préféreriez-vous aimer davantage et souffrir davantage, ou aimer moins et moins souffrir? C'est, je pense, finalement la seule vraie question. Vous pouvez faire remarquer, à juste titre, que ce n'est pas une vraie question, parce que nous n'avons pas le choix. Si nous avions le choix, la question pourrait se poser. Mais nous ne l'avons pas, donc elle ne se pose pas. Qui peut contrôler la force de son amour? Si vous pouvez la contrôler, ce n'est pas de l'amour. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais ce n'est pas de l'amour. La plupart d'entre nous n'ont qu'une histoire à raconter. Je ne veux pas dire qu'une seule chose nous arrive dans notre vie. Il y a d'innombrables événements dont nous faisons d'innombrables histoires. Mais il n'y en a qu'une qui compte, qui vaille finalement d'être racontée. Ceci est la mienne. Mais voici le premier problème. Si c'est votre seule histoire, c'est celle que vous avez racontée le plus souvent, même si, comme c'est le cas ici, c'était surtout à vous-même. La question alors est... Toutes ces narrations de votre propre histoire vous rapprochent-elles de la vérité de ce qui s'est passé ou vous en éloignent-elles? Je n'en sais trop rien. Un test pourrait être la question de savoir si, les années passant, on en ressort sous un meilleur jour ou l'inverse. En ressortir sous un plus mauvais jour pourrait indiquer qu'on est plus véridique. D'un autre côté, il y a le risque de se montrer rétrospectivement anti-héroïque. Feindre de s'être plus mal comporté qu'on ne l'a fait en réalité peut être une forme d'éloge de soi. Alors il me faudra être prudent. Mais bon, j'ai appris à être prudent au fil du temps. Aussi prudent maintenant que j'étais alors imprudent. Ou veux-je dire insouciant? Un mot peut-il avoir deux contraires? L'époque, le lieu, le milieu social? Je ne suis pas sûr qu'il soit si important que ça dans les histoires où il est question d'amour. Peut-être autrefois dans les classiques où il y avait des luttes entre amour et devoir, amour et religion, amour et famille, amour et état. Ceci n'est pas une de ces histoires. Mais enfin, si vous insistez, l'époque, il y a plus de 50 ans. Le lieu, à une vingtaine de kilomètres au sud de Londres. Le milieu social, celui de la grande banlieue résidentielle, alors appelée zone des agents de change. Nom que j'y ai jamais rencontré le moindre agent de change pendant toutes ces années. C'était donc le début de La seule histoire, nouveau roman de Julian Barnes. Là, j'ai gardé le choix, vous n'êtes que deux ce soir avec moi. Qui commence? Jean-Christophe Briançon.
Alors, moi, j'avais entendu cet été sur notre antenne, Christophe Onodibio nous dire qu'il y avait eu deux grands romans d'amour en cette rentrée, celui de Pauline de Labroix-Allard, qui a malheureusement disparu.
Goncourt, voilà, qui ne garde que des garçons. Et on pourra débattre là-dessus, comme on a un peu de temps, non?
Oui, bon. On pourrait.
On pourrait.
Bah, on avait déjà débattu de son livre, d'ailleurs, ce qui nous avait donné l'occasion de nous disputer gentiment. Et du coup, j'ai, à la suite de l'écoute de Christophe, lu ce livre de Julian Barnes. C'est effectivement la comparaison est peut-être cruelle parce que là, effectivement, même si j'ai beaucoup aimé le livre de Pauline de Labroix-Allard, ce livre-là a une ampleur bien bien différente et bien autre chose qu'un livre d'amour. Pas que encore une fois l'autre soit nécessairement moins bon, mais en tout cas là on sent que c'est une question d'être un auteur à part entière dans tout ce que ça implique au-delà de la sentimentalité qu'on veut mettre dans son histoire.
Ils n'en sont pas au même moment de leur parcours.
Voilà, ils n'en sont pas du tout au même moment de leur parcours. Et donc,
c'est un premier roman. Celui-ci, c'est le combienième d'ailleurs?
C'est le 16e.
16e, bon. Oui.
Et là, c'est d'une ampleur bien différente dans la construction, entre autres. Parce que, au-delà de la construction, d'abord la langue qui est d'une élégance absolument rare et la construction d'une intelligence tout aussi rare pour nous raconter cette histoire, dont on a pu voir par l'extrait que vous nous avez lu, qu'il s'agit donc d'une histoire pas la seule, mais en tout cas la première histoire d'amour du narrateur qu'on va suivre depuis son tout début jusqu'à la dernière fois où il verra cette femme avec laquelle il aura une histoire. Entre donc ce tout début et cette toute fin, se seront écoulées 12 années, me semble-t-il. 12 années qui lui auront fait vivre tout ce qu'une histoire d'amour peut faire vivre à un homme, en l'occurrence. Et c'est 12 années qui s'écoulent en trois parties. Trois parties d'une sobriété, aussi bien le découpage que ce qui se passe au sein de ce découpage est d'une sobriété et d'une élégance absolument remarquable, parce que voilà, il n'y a pas de fioritures, le découpage se fait de manière très simple, très chronologique finalement, et assez simple, avec un passage du je au tu, au il, pour nous faire comprendre petit à petit, nous faire comprendre et vivre cette histoire un petit peu à l'échelle de ce qu'il a vécu, voilà, dans une simplicité très très belle, mais qui n'enlève jamais la possibilité à son auteur d'être effroyablement intelligent. C'est un livre remarquable.
Raphaël Deris, premier regard sur cette seule histoire racontée par Julian Barnes ici.
Alors, puisqu'on a un petit peu de temps, je vais parler un petit peu de la vie des rédactions. C'est parfois une grande frustration. Il y a des auteurs qu'on aime et qu'on ne peut pas lire parce que c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe historiquement. Et donc, on le met sur une pile en se disant peut-être un jour pour ma retraite. Et puis, rarement, en tout cas, difficilement. Voilà. Donc, j'étais très, très heureuse de pouvoir le lire à l'occasion de cette dispute, raison pour laquelle je l'ai proposé. Donc la seule histoire, c'est l'éducation sentimentale de ce grand flaubertien qui est Julian Barnes. Alors je ne crois pas qu'on l'a dit, donc c'est l'histoire d'un garçon de 19 ans qui est avec une femme de 30 ans de plus que lui, qui tombe amoureux, follement amoureux de cette femme, Suzanne, pendant des cours de tennis. Sur un cours de tennis plus précisément. Et en fait, ce ne sont pas 12 années, c'est le temps que va durer leur histoire d'amour. Et en fait, il la reverra des années plus tard, ce qui donne un écoulement du temps très différent. Quand il parle de la seule histoire, c'est aussi parce que, y compris pendant tout le temps, il ne la voit pas, ça reste l'histoire par laquelle il se définit. Pas juste l'histoire d'amour, c'est quand on parle de quelqu'un, la première chose qu'on vous raconte à son sujet, c'est telle ou telle histoire. Ben, lui, c'était Paul, le garçon de 19 ans, qui s'est enfui avec Suzanne MacLeod. Qui avait 48 ans, avec qui il avait commencé par jouer au tennis. Ils avaient été désignés par le hasard, qui sera l'autre nom du destin pour un double mythe. Et donc, ce que je trouve admirable, entre autres, dans ce texte, donc ça commence sur un petit peu ce mode de la dissertation, où tout ce qui est affirmé sera battu en brèche après, c'est-à-dire que le milieu, l'époque ne compte pas, on verra à quel point si, fondamentalement, ça compte. Tout sera rebattu, et c'est aussi pour ça que c'est un grand roman, c'est parce que ça raconte tout et son contraire, et que ça montre les infinies facettes de l'existence. Et puis après, on rentre dans un roman satirique. On est dans la banlieue de Londres. Et donc, à 19 ans, Paul s'ennuie avant de retourner à la fac. Il s'inscrit au club de tennis puisque sa mère aimerait beaucoup qu'il rencontre une Caroline.
En tout, Caroline et des Hugo.
Et des Hugo, voilà, qui deviennent copains avec des Hugo. Et puis, finalement, il va rencontrer une Suzanne et ça sera beaucoup plus compliqué que ça. Et puis après cette partie merveilleusement satirique, d'ailleurs il dit je me suis inscrit à ce cours à ce club de tennis par sens de la satire.
Il y en a beaucoup dans cette
première
partie.
Et là il y en a beaucoup dans cette première partie.
Extrêmement drôle quand même.
Et c'est hilarant, c'est vraiment merveilleux. Ouais. Et le début de leur flirt est tellement délicieusement anglais sur le mode de l'ironie permanente, des petites phrases, de la délicatesse dans l'humour, c'est vraiment formidable. Et puis après, on va basculer dans quelque chose de beaucoup plus tragique. Ouais. Voilà. Et une étape en amène une autre. Je crois que c'est ça qu'il écrit pour dire que, voilà, enfin, la manière dont on se confronte au réel, c'est que d'un seul coup, une étape en amène une autre. Alors, ils vont partir de cette banlieue résidentielle pour aller vivre ensemble à Londres. Et là, je crois que je ne divulgue trop rien en disant que, voilà, Suzanne va s'avérer alcoolique. Elle ne l'était pas quand elle vivait avec un homme atroce qui la battait et qui buvait lui-même. Et ça restera l'énigme de la vie de Paul, sur laquelle n'insiste pas du tout Barnes. Et je trouve que c'est une des grandes beautés du texte. C'est qu'il n'insiste pas pour essayer de comprendre ce qui l'a amené à boire alors qu'elle vivait cet amour avec ce garçon charmant qui était amoureux d'elle. Voilà. Et donc, ça aussi, ça reste un très beau mystère romanesque, absolument déchirant. Et c'est cette alliance de toutes ces formes de registres qui en fait la beauté. Il y a aussi donc les personnes. Alors il y a le jeu, puisque un premier amour, Christine ne se vit qu'à la première personne. Et puis ça passe au tu, au moment du tragique. Et puis après ça passe au il, avec quelques retours au jeu. Et tout ça est fait d'une manière absolument merveilleuse, je trouve, par Barnes. Et c'est vraiment un éblouissement pour moi, ce texte.
Alors moi, c'est vrai que je goûte beaucoup, 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 beaucoup les textes de Julian Barnes. Alors j'ai plus l'occasion, peut-être, alors que vous, Raphaël, de lire, évidemment de recevoir sur cette antenne de France Culture plusieurs fois. Heureusement, j'avais lu ce livre pendant l'été. Je dis heureusement parce que d'une semaine à l'autre, voilà, il faut qu'on lise et voit et faire beaucoup de choses. Et que ce livre-là, moi, je ne peux le lire que très lentement. Parce que ce qui est frappant chez Julian Barnes, comme normalement chez tout grand écrivain, c'est que chaque mot compte et qu'il est absolument hors de question de faire une lecture un tant soit peu diagonale, parce qu'alors là, vraiment, on perdrait tellement, et on le ressent à chaque page, on ressent qu'on perdrait beaucoup à ne sauter qu'une phrase ou qu'une ligne. Donc c'est absolument hors de question, j'interdis à quiconque de sauter une ligne. Non, vous faites ce que vous voulez avec les livres. Essayez de les lire, c'est déjà une bonne chose. Mais vraiment, je suis admiratif, c'est le mot est faible, parce que il a l'air d'avoir une économie de moyens. Il y en a une d'ailleurs. Hein. Il cherche pas des mots rares. Enfin, il fait pas le malin, jamais. Mais alors qu'il est beaucoup plus que malin, et il nous transporte d'émotion en émotion. Et c'est vrai que ce choix des trois parties, extrêmement, là encore, d'une simplicité totale, sauf qu'on va de quelque chose de guiré, de rose, de juvénile, et pour cause vers quelque chose de très noir, y compris les toutes dernières pages que vous avez évoquées habilement, Raphaël Léris, qui sont à la fois terribles parce que, et en même temps, on ne peut plus réaliste, c'est la vie, quoi, et quelque chose comme ça qu'on peut se dire en fermant ce livre. La question de savoir si c'est une histoire vraie ou fausse, je m'en contrefiche, mais absolument, c'est peut-être. Tout est vrai, tout est faux, c'est pas du tout ça la question, et ça nous fait du bien aussi de pas nous poser ce genre de questions. On a peut-être moins de proximité médiatique avec Julian Barnes qu'avec d'autres auteurs, surtout de nos contrées, dont on sait à peu près toute l'existence. Là, il y a cette chose-là aussi qui nous fait apprécier un livre pour ce qu'il est, c'est-à-dire de la littérature, des mots choisis, un ordre de séquence. Et moi, j'aime beaucoup ce portrait de cette Angleterre qu'on a pourtant quand même aussi pas mal lu dans beaucoup de livres de bons auteurs.
Y compris de Barnes.
Y compris de Barnes, mais de quelques autres aussi. Et là, je trouve qu'il y a encore une richesse supplémentaire. Le portrait des parents est quand même à la fois délicieux et assez effrayant aussi, parce que grandir à cette époque-là, dans cette Angleterre-là, et dans ce quartier des agents de change. Là, pour le coup, je crois qu'on voit pas beaucoup d'agents de change, hein, ou alors je les ai ratés. C'est une des rares choses vraies de cette première page que j'ai lue tout à l'heure de Julian Barnes. Mais ça renseigne énormément, effectivement, sur le contexte socio-économique. Chercher un agent de change dans le livre, alors que ça brille en champ.
Non, je cherche à me remémorer quelque chose.
Mais je vous en prie.
Je cherche à me remémorer la...
Vous êtes venu sans vos cahiers.
Bah oui, j'ai tout oublié. oublié, je vous l'ai dit.
On a un critique en moins, vous oubliez vos notes et vous n'avez pas vos livres. Comment vous voulez qu'on s'en sorte pour cette émission?
C'est une catastrophe, mais je cherchais la phrase d'ouverture du livre qui est là aussi.
Normalement, elle est au début, hein, assez, si je peux vous donner un indice.
C'est ironique.
Celle de Samuel Johnson.
Roman de point, une petite histoire, virgule, généralement d'amour, point.
Ce qui est très ironique.
De langue anglaise.
De sa part, c'est très amusant parce que là aussi, c'est en fait, il fait tout sauf ça. Enfin, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est un livre qui est tout sauf ce qu'il semble être en fait. Même quand on lit le quatrième de couverture pour ceux qui les lisent, puisque vous ne le faites jamais.
Alors, je vais le lire. Temps. À force, on ne va plus avoir le temps de parler des autres livres. Un premier amour détermine une vie pour toujours. Ce que j'ai découvert au fil des ans. C'est ce que j'ai découvert au fil des ans. Vous savez, je n'arrive même pas à les lire, ces quatrièmes de couverture. Bon. Il n'occupe pas forcément un rang supérieur à celui des amours ultérieurs, mais elles sont toujours affectées par son existence. Il peut servir de modèle ou de contre-exemple. Il peut éclipser les amours ultérieurs d'un autre côté. Il peut les rendre plus faciles, meilleurs. Parfois aussi, un premier amour cautérise le cœur et tout ce qu'on pourra trouver ensuite, c'est une large cicatrice.
Mais en fait, c'est pas ça, ce livre-là. Enfin, c'est ça entre autres, c'est ça aussi. Et c'est ce qui fait sa force, c'est qu'il est, officiellement, voilà, c'est une histoire d'amour. Voilà, c'est une histoire d'amour, le premier amour, comme
petit
on en a vu tant.
Déjà.
Mais en fait, c'est bien d'autres choses. C'est comme vous l'avez dit, c'est le portrait d'un pays, c'est le portrait d'un temps, c'est le portrait aussi d'une femme, aussi, voire surtout d'une femme. Mmh. Et là encore, comme le disait très bien Raphaël, c'est sans jamais insister sur rien. Parce qu'en fait, et pourtant j'ai l'habitude de dire que je n'aime pas ça, mais il ne fait rien d'autre que de montrer le réel, de l'accepter et de dire voilà, c'est ainsi, ainsi se sont passées les choses, ainsi je les ai vécues et elles me marqueront peut-être, mais je m'apitoierai pas dessus. Donc tout est fait dans une élégance absolue, aussi bien dans le portrait de cette femme que dans son vécu à lui, que dans l'ironie qu'il porte sur l'ex-mari de Suzanne, donc qui est cette femme dont il tombe amoureux. Tout est fait sans aucune insistance, sans aucune lourdeur, et y compris dans les personnages secondaires que je trouve remarquablement.
Il y a Joan,
remarquablement décrit.
Formidable.
Il y a un travail qui est absolument incroyable sur ces personnages.
Elle a une épaisseur folle. Elle n'est pas si présente que ça. Mais à chaque fois, Raphaël Béris.
C'est quasiment le personnage principal. C'est à la fois le lecteur, le témoin de leur histoire. Enfin, elle a cette espèce de rôle-là.
Elle est indispensable.
Elle est aussi un petit peu l'auteur. Elle a ce regard à distance sur leur histoire. C'est une ancienne amie de Suzanne qui a été la sœur de son premier amour, de son premier grand amour qu'elle a perdu. Et elle accepte tout. C'est une femme qui dit qu'elle a raté sa vie et qu'elle boit du gin en s'occupant de ses chiens. Et c'est un personnage d'une intelligence, d'une acuité et d'un manque de complaisance qui est merveilleux.
Bon, on a beaucoup de choses merveilleuses, on a pris le temps, ce qui est bien, pour parler de la seule histoire qui vaut bien ce beau livre de Julian Barnes, publié au Mercure de France, dans une traduction de Jean-Pierre Austin, à suivre dans la dispute Mauvais joueur de John Didion, c'est qui t'appartient, de Garth Greenwell, le coup de cœur de Jean-Christophe Brianchon pour Seul l'amour peut te briser le cœur, et dans quelques instants, celui de Raphaël Béris. Eh bien oui, un jingle tout spécial, tout guilleré, pour un 1er novembre, je crois qu'il est tout à fait adapté. Raphaël Léris, vous avez envie de nous parler d'un gros ouvrage, donc ça va vous prendre du temps, forcément. Emmanuel Carrère, Fer et Fraction dans le réel, non pas un livre d'Emmanuel Carrère, mais un livre sur Emmanuel Carrère.
C'est un gros livre, tellement gros qu'il prend les proportions d'une malle au trésor, disons. Il y a quelque chose de ça dans ce recueil qui compile des contributions universitaires sur l'œuvre de Carrère, des textes de proches et moins proches de l'écrivain, comme Michel Houellebecq, le réalisateur Pascal Bonitzer, qui signe un texte extraordinaire sur Retour à Kotel Nietzsche, le film en 2003 de Carrère, ou un personnage inoubliable pour les lecteurs de Carrère, qui est le juge Étienne Rigal, qui était au centre de D'autres vies que la mienne. Et on y trouve aussi, et ça n'est pas rien, des inédits d'Emmanuel Carrère. C'est donc presque 40 années d'écriture qu'embrasse cet épais volume dirigé par Laurent Demanz et Dominique Rabaté. Il prend le travail de Carrère dans sa globalité, depuis ses débuts comme critique à Télérama, critique de cinéma, et il examine de la même manière ses premiers textes-là, journalistiques, et les romans de l'auteur, ses reportages, et les deux films qu'il a réalisés pour parler de son rapport au montage, à la figure du témoin, à la morale, ou encore à Philippe Kadic, auquel il a consacré une biographie, et qui est l'un des noms qui revient le plus dans ce texte, au côté de Flaubert. C'est assez amusant. On trouve réellement des pépites du côté de ces articles universitaires. Alors, il y a notamment, pour commencer, l'entretien entre Carrère et les concepteurs du livre, qui est d'une profondeur, d'une intelligence assez sidérante. Et puis, alors, un texte strictement universitaire, très émouvant. Je l'ai trouvé très émouvant. Ce sont les pages que Claude Burgelin, qui est un éminent spécialiste de l'Oulipo, consacre à l'analyse des liens entre l'œuvre de Carrère et celle de Georges Perec, qui est l'auteur pour lequel le jeune Carrère a eu envie d'être publié par l'éditeur Paul Tchaïkovski Laurence, lequel, mort le 2 janvier dernier, est présent dans Faire effraction dans le réel à travers un très très beau texte, L'amitié par le livre. Paul Tchaïkovski Laurence, il note ce qui ne cesse de me surprendre chez Emmanuel Carrère, et j'ai beau le savoir et m'y attendre, à chaque fois cela recommence, c'est le mystère qui fait que son écriture est reconnaissable entre toutes, alors même que je serais bien incapable de la caractériser, d'en décrire les composantes, les constantes. Donc je ne divulgâcherai rien, selon le terme d'émission, en révélant que ce mystère reste à peu près entier à l'issue de cette impressionnante volume, et que c'est sans doute tout aussi bien. D'autant qu'on trouve ici beaucoup mieux que des explications, les textes, je le disais, de Carrère inédits qui sont loin d'être des fonds de tiroir.
C'est quoi ce genre d'inédit ?
Eh bien, il y a une version alternative des premières pages de L'Adversaire, qui est parue chez POL en 2000, et ces premières pages sont écrites du point de vue du meilleur ami de Jean-Claude Roman.
Ah ouais.
Et c'est assez sidérant, c'est vraiment rentrer dans un univers parallèle. Enfin, là aussi, on est chez Kadic, c'est-à-dire qu'on rentre dans un autre roman d'Emmanuel Carrère, de ce roman j'ai lu, je sais pas, une quinzaine de fois, donc je le connais assez bien. Ça fait un drôle d'effet. Ou d'une chute du royaume qui est consacrée à l'incipit de Madame Bovary, où il revient sur cette question de pourquoi est-ce que Flaubert commence par un « nous ». Et il a dû l'enlever de cet énorme livre aussi qui était le Royaume. Et c'est génial de trouver ça dans cette épée en cueil. Il y a aussi un échange de courriel avec le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade à propos de la géniale série
Formidable.
Soupçons.
Ouais.
Et cet échange, The Staircase, qui a trouvé un prolongement là récemment.
Oui, on en a parlé dans la dispute, vous croyez
vous en parlâtes, bien sûr, je vous ai écouté. C'est un échange de mails de quelques pages entre les deux qui est riche d'échos complètement déments avec L'Adversaire de Carrère. Et voilà, je ne saurais trop vous engager à aller y voir.
Ah bah oui, mais vous faites bien parce que vous voyez cet épais volume, on en parlait. Comme il n'est pas au programme de la dispute pour l'instant, il est bien placé sur l'étagère des livres que j'ai envie de lire. Je me dis, je les lirai plus tard, quand, je ne sais pas. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller puiser.
On peut piocher.
J'ai envie de lire les différents exemples que vous avez donnés. Mais alors, non, je tiquais tout à l'heure. Pas je tiquais, mais j'étais émerveillé par le fait que vous accoliez universitaire et émouvant.
Ouais.
Ce qui est quand même une
le
chose assez rare.
Burgelin, vraiment.
Pour qualifier un texte.
Vraiment,
non, mais
je
ça m'étonne
lu
pas
avec
de Burgelin. Bon, eh ben voilà. Il faut beaucoup de temps, mais on peut aller piocher de temps en temps. Et puis, si on aime Emmanuel Carrère, on ne compte pas. Emmanuel Carrère, Faire effraction dans le réel sous la direction de Laurent Demanze et Dominique Rabaté, un livre évidemment publié chez POL.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute littérature avec Mauvais joueur de John Didion, publié chez Grasset dans une traduction de Jean Rosenthal. Il aura fallu longtemps pour que la France succombe à John Didion. C'était en 2007, avec L'année de la pensée magique, journal du deuil qui avait frappé l'auteur avec la mort soudaine de son mari. Cela a permis de publier chez nous quelques-uns de ses romans, dont ses Mauvais joueurs, qui est en fait sorti en 1970 aux États-Unis, donc on a un sacré retard. Ce roman qui va nous permettre de suivre, si on peut dire ça, suivre... Ça titube pas mal, en tout cas. On va suivre la lente, longue, profonde dépression d'une actrice hollywoodienne. New York, ça rimait à quoi ? À 18 ans, une fille de Silver Wells, Nevada, termine ses études au lycée de Tonopah et s'en va à New York pour s'inscrire à un cours d'art dramatique. Qu'est-ce que vous en dites ? Ma mère trouvait que c'était une excellente idée de devenir actrice. Elle me coupait les cheveux en franges pour me faire ressembler à Margaret Sullivan. Et mon père disait que je ne devais pas avoir peur de partir parce que si certaines affaires se concluaient comme prévu, ma mère et lui feraient constamment la navette sur la ligne Las Vegas-New York. Alors j'y suis allé. En fait, l'avant-dernière fois que je l'ai vue, ma mère était assise à l'aéroport de Vegas en train de boire un Cuba Libre. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, tout fout le camp. Je me donne beaucoup de mal pour ne pas penser à quel point tout fout le camp. Je regarde un oiseau-mouche, je lance une pièce en l'air, mais sans jamais regarder si elle retombe du côté pile ou du côté face. Je me concentre sur maintenant. New York. Laissez-moi m'en tenir à certains faits. Ce qui s'est passé, ça a été ceci. Je n'étais pas mal. Je ne vous dis pas que j'étais béni ou maudite, je signale un fait, je le sais d'après toutes les photos. Alors quelqu'un m'a photographié et bientôt je me faisais 100$ par heure avec les agences et 50 avec les magazines, ce qui en ce temps-là était convenable. Et je connaissais un tas de gens du Sud, des pédales et des riches héritiers, et c'est comme ça que je passais mes jours et mes nuits. Le soir où ma mère est sortie de la route dans le virage de Tonopah, j'étais avec un jeune pochard au Morocco. Pour autant que j'ai pu le calculer par la suite, je ne l'ai su qu'au bout de 2 semaines parce que les coyotes l'avaient dévoré avant qu'on l'ait trouvé et que mon père n'avait pas pu me prévenir. J'avais prévenu, il faut suivre. Hein. Ça titube beaucoup. Quand on la suit, notre héroïne Marie. Et parce qu'on nous dit comment c'est dans le texte, hein, comment il faut prononcer son nom, Raphaël Léris.
Oui, Maria, l'histoire de Maria. Et d'ailleurs, le texte, vous disiez qu'on a dû attendre 1970, depuis 1970, ça n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il est paru, excusez-moi, je suis confuse de vous.
Alors vous faites bien au contraire.
Il est paru une première fois en 73 chez Julliard, sous le titre Maria, avec ou sans rien.
D'accord.
Puis il est reparu, mais en 2007, toujours sous le titre Maria, avec ou sans rien, mais en même temps que l'année de la pensée magique, et il a été éclipsé.
Ouais.
Par l'année de la pensée magique.
Mes excuses auprès de René Julliard, déjà, d'une part.
D'où,
qui
avait bien repéré, on dit bravo à
Julliard. C'était un grand éditeur. Hein.
Et donc, là, il reparaît, alors à nouveau avec un autre, j'ai l'impression que cette pauvre Maria, l'autre est en sud-ouest. Non, je crois pas, c'est un recueil chronique qui date de la même époque, qui commence en 1970, je crois. J'avoue à ma grande honte que je n'ai pas fait mes devoirs et que je ne l'ai pas lu.
Sud-ouest.
Voilà. Et donc Maria, avec ou sans rien, me semble un meilleur titre pour ce livre que Mauvais joueur, puisque c'est un grand livre sur le rien. Enfin, en tout cas, c'est un livre où le rien occupe toute la place. Ça n'est pas pour rien que John Didion est le maître de Bret Easton Ellis, Jim McInerney. Avant tous ces gens-là, elle a décrit le rien de ses existences et la manière dont justement il fait tituber et il empêche de se tenir droit. La vacuité de ses existences à Hollywood, de ses demi-actrices qui ont eu un petit succès. Maria a joué dans 2 films de son mari, Carter.
Dont un seul est sorti quand même.
Dont un seul est sorti, mais a eu beaucoup de succès. Et le deuxième est à l'image du texte, c'est-à-dire que son mari l'a filmé à New York, dormant, dînant,
pleurant,
nettoyant un bol de hashish, je n'ai pas bien compris. J'étais un peu perdue sur cette image. Mais donc,
vous n'avez pas la pratique, ça que vous voilà. Me faire croire.
Tout à fait. Donc, il la suit et il suit cette espèce d'existence qui se délite, qui manque de lien, où il n'y a pas de cause à effet. Voilà, c'est un livre qui nous parle de l'absence de cause à effet. Elle dit d'ailleurs à propos de son mari et d'une de leurs amies, Hélène, que eux faisaient partie des gens qui croyaient encore aux causes et aux effets et qu'elle, elle est bien au-delà de ça. Donc le texte s'ouvre, elle est dans une maison de repos.
Voilà.
Et on découvrira ensuite ce qui l'a mené là, cette existence où donc on va apprendre qu'elle a une petite fille de 4 ans qui est elle-même dans un institut et qui est la seule raison pour laquelle elle ne se bousille pas. Et on découvrira qu'elle avait un ami, Bizet, qui est mort à ses côtés. Et c'est ça qui a fini par la mener dans cette institution. Le texte se délite au fur et à mesure. Les paragraphes sont de plus en plus courts. Les dialogues qui prennent beaucoup de place au début perdent un petit peu au fur et à mesure. Voilà. Donc pour moi, c'est un livre assez impressionnant sur le rien. Après, je trouve que c'est un petit peu vieilli, mais peut-être qu'on y reviendra.
Alors, peut-être y reviendra-t-on. Jean-Christophe Briançon sur John Didion et ses mauvais joueurs. 3e publication, cette fois chez Grasset, après Julliard et Robert Laffont.
Robert Laffont. Ouais,
je viens enfin de lire ce que j'aurais dû lire, la page de garde dans laquelle sont indiquées les premières traductions. Donc c'était Robert Laffont. Pavillon poche même. Bref.
Là, sur le fait que ça ait vieilli, moi je suis assez partagé parce que à la fois j'ai tendance à me dire que ce roman aurait pu être écrit hier. Et en même temps, je suis quand même forcé de constater qu'aussi bien sur le plan des thématiques que sur la façon concrète de les aborder, de les mettre en mots et en images, il y a quand même effectivement quelque chose d'un petit peu vieilli qui nous ramène justement à Bret Easton Ellis, surtout plus que Jay McInerney, j'ai trouvé. Et bien qu'il y ait quand même plus de force, mais ça résonne. En tout cas, si ça résonne d'une certaine modernité, ça résonne d'une modernité des années 90 un petit peu, mais pas au-delà. En revanche, je trouve que pour ce qui est justement de ce livre en particulier, moi je suis de ceux qui sont devenus dingues de littérature par le biais justement de ces auteurs du Brat Pack, de Bret Easton Ellis et Jay McInerney, entre
âge.
Autres. Et voilà, c'est de mon âge. Complètement, bah oui, c'est la littérature des années 90, donc c'est un petit peu de mon âge, et c'est ce qui m'a fait rentrer dedans pleinement. Et jusqu'alors, j'avais encore jamais trouvé de livre qui me permette de dire que on pouvait faire aussi bien cette dépiction du rien. Et bon, là, j'ai trouvé effectivement.
On va pas parler de Flaubert tout de suite. Et encore.
Non, mais
je rigole. Non, mais c'est le grand livre sur rien.
Et là, c'est quand même fait avec une puissance. Moi, j'avais pas lu. J'étais complètement passé à côté des traductions françaises et je l'avais pas lu en anglais, donc je découvre un peu l'Amérique d'une certaine manière, parce que découvrir que John Didion a fait mieux que Bret Easton Ellis, je crois que je suis un peu en retard, mais en même temps c'est quand même assez incroyable de voir à quel point elle le fait bien, et à quel point elle a essaimé culturellement aussi bien chez ses auteurs que même en termes de cinéma, parce que c'est une écriture très très visuelle, c'est une mise en image permanente de tout, et on vit quand même avec une émotion folle ces instants de perte de la narratrice, de cette jeune femme sur les routes de Los Angeles, dans sa voiture, seule. On les voit, on les sent, et c'est un rien qui nous amène vraiment quelque part, alors même qu'elle va justement nulle part. C'est absolument incroyable, cette mise en image est assez rare, donc ça m'a vraiment fait réfléchir sur mes amours littéraires de jeunesse, on va dire. Et c'est peut-être ce qui explique aussi cette manière qu'elle a de réussir à sentimentaliser le rien. C'est peut-être ça qui explique aussi que cette littérature du Brat Pack n'est pas forcément passé le seuil des années 90 pour marquer le temps d'aujourd'hui, alors que la sienne indéniablement marque littérairement, je pense, l'époque des années 2000 et bien après jusqu'à aujourd'hui. C'est justement cette propension qu'elle a à pouvoir parler, à pouvoir critiquer le macro tout en faisant du micro, quoi. C'est-à-dire que là où Bret Easton Ellis ne fait que d'utiliser ses personnages pour nous montrer un monde de merde, quoi, un monde dans lequel il ne veut plus vivre, ces personnages ne sont que des faire-valoir. Elle, ici, jamais les personnages ne sont des faire-valoir. Les personnages sont toujours là pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont d'humain, pour ce qu'ils vivent, pour ce qu'ils ressentent et pour ce qu'ils peuvent nous bouleverser et nous apprendre. Donc c'est là sa grande force, c'est de réussir, je pense, dans ce livre, à nous parler du monde tout en réellement nous parlant de ces personnages. Ces personnages ne sont pas seulement des excuses pour véhiculer l'histoire du monde, et c'est remarquablement émouvant.
Alors, c'est vrai que sur le côté, est-ce que ça a vieilli ? Alors, je vais vous redonner la parole dans un instant là-dessus, Raphaël Leris, mais du coup, alors, est-ce que c'est parce que je savais qu'il était sorti en 70 ? Mais il y a vraiment quelque chose, mais c'est plutôt pour le coup la génération de John Didion, qui a un âge tout à fait vénérable. Voilà, dans les 80,
83,
on va dire. Et moi, il y a plusieurs femmes auxquelles ce livre m'a fait penser, mais qui sont. Aucune ne ressemble précisément à Maria, mais c'est aussi bien une Barbara Loden qui n'aurait pas réussi à faire un film, aussi bien une Marilyn balancée d'homme en homme, ne sachant jamais où est sa place, peut-être aussi la Marilyn des Misfits, parce qu'il y a tout ce tournage dans le désert. Alors, Maria dans le désert, c'est une sorte de Maria au carré, parce que rien dans rien, enfin, c'est assez terrible. Il y a aussi Gina Rowlands de Opening Night, ces femmes, ces actrices à la dérive, enfin, ce sont des figures qui datent légèrement, mais qui sont pour moi des références absolument majeures. Donc il y a une façon de... Pardon ?
Moi, ça m'a fait penser en plus moderne, mais alors peut-être en moins qualitatif.
Attention, j'ai peur.
À l'ouverture de Somewhere de Sofia Coppola.
Ah ouais, bon.
C'est un personnage qui fait des tours de fer.
On ne fera pas avoir entendu cette phrase.
Mais je sais que vous détestez Sofia Coppola et ce film.
Non, c'est son moins mauvais film. Mais ça reste très très mauvais. Parce que c'est quand même Sofia Coppola. Mais on ne fait pas une dispute cinéma tout de suite. Et puis il y a tous ces très courts chapitres aussi. Mais à titre d'exemple, pour donner aussi à entendre
à nos auditeurs le type de pensée que peut avoir Maria. Maria dressa une liste de tout ce qu'elle ne ferait jamais. Sur la liste, il y avait traverser la salle de Sands ou au César's toute seule après minuit. Il y avait aussi s'envoyer en l'air à une soirée, se faire fouetter, à moins d'en avoir envie, emprunter des fourrures à Abe Lipsy, fournir de la drogue et aussi avoir un Yorkshire à Beverly Hills. Bon, ça c'est une chose, beaucoup plus loin, c'est très différent. Là c'est elle qui parle. Hein. Au début de mon mariage avec Carter, quand mon nom a commencé à apparaître dans les chroniques, je recevais des lettres de fous. Je ne me passionne pas beaucoup pour les problèmes de ce qu'on pourrait appeler notre époque, mais je suis accablé par les démons qui m'écrivent des lettres. Ils n'ont même plus besoin de m'écrire. Je sais quand quelqu'un pense à moi. C'est un problème auquel j'apprends à me faire. Oui, on voit que ça va quand même assez loin dans la tête de Maria. Pour donner d'autres petits exemples. Alors, vieilli, pas vieilli, Raphaël Léris. Daté, pas daté plus exactement. En daté, fait, salé.
Voilà, daté, salé, et ça, on n'y peut pas grand-chose. Vie, non, effectivement, je suis assez d'accord avec Jean-Christophe Rianchon, c'est-à-dire que c'est un peu absurde de la lire après avoir lu Bratiston et Lys, et donc d'avoir l'impression que ça arrive après alors que ça arrive avant. Enfin, il y a une espèce de temporalité qui est un peu étrange, sachant qu'il y a, à mon sens, chez John Didion, une lucidité, une intelligence que je ne trouve pas, à titre personnel, autant chez Bret Easton Ellis, dont je ne suis pas une grande admiratrice. Donc, je pense que c'est un peu injuste de le considérer comme vraiment vieilli, alors qu'effectivement, il est peut-être plus daté que vieilli, qu'il y a une lucidité, une intelligence du texte, quelque chose d'étincelant, d'un peu aveuglant, je trouve aussi, dans la plongée dans la tête de cette femme qui est... qui n'est pas folle, qui fait avec la folie du monde, qui est perdue, et effectivement, qui lorgne ces figures dont vous parliez et qui sont datées immortelles. Donc je retire ce que j'ai dit, pardon John Didion.
Bon, bah, c'est très bien. J'étais en train de sortir mon boulier pour me dire qu'en fait, John Didion, elle avait 35 ans quand elle écrit Mauvais joueur, et que là, ça vous calme tout de suite, hein, Jean-Christophe Rianchon. 35 ans, on écrit Mauvais joueur. Il a compris beaucoup de choses de la vie.
Il va falloir être au niveau.
Bon, on vous le souhaite très volontiers. Mais pour moi, c'est fichu depuis extrêmement longtemps. Alors, curieusement, mais si j'ai lu deux essais par avant de John Didion, La pensée magique et celui qu'elle a écrit ensuite sur la mort de sa fille, sur Quintana Roo, qui était un livre très fort aussi. Moi, c'était le premier roman d'elle que je lisais. Vous en avez lu d'autres pour Raphaël Léris?
Non, j'ai lu aussi
mais elle n'en a pas écrit tant que ça.
Non, je sais bien.
C'est son deuxième.
Je sais bien. Je suis curieux parce que c'est vrai qu'il y a...
Je crois qu'elle en a écrit 4 ou 5, mais pas plus, des fictions.
Non, parce qu'il y a... On n'est quand même pas dans le même registre d'écriture, forcément. C'est Le Bleu de la Nuit, le livre sur Quintana et le deuil de sa fille, mort quelques mois après son mari. Mais j'étais très curieux de lire ce roman, mais alors on lira aussi, c'est un recueil de récits.
De chroniques, oui.
De chroniques qui sort. Bah, encore un autre type d'écriture, parce que John Didion, c'est une figure majeure de la scène intellectuelle américaine, et new-yorkaise même, on pourrait dire ça comme ça. En tout cas, voilà ce que nous, on avait envie de dire sur Mauvais joueur. Quelque chose à ajouter?
En tout cas, si on parlait de daté ou vieilli, enfin, sur la question de savoir si ça l'était, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'écriture, à mon sens, sur un plan purement littéraire, quoi. L'écriture, à mon sens, ne l'est pas du tout. Je pense que ce qu'elle véhicule l'est, mais en tout cas, cette manière d'écrire, à mon sens, n'est absolument ni daté ni vieilli.
Une très belle écriture d'une autre époque. Qui raconte une autre époque. Mauvais joueur de John Didion, publié chez Grasset dans une traduction de Jean Rosenthal. C'est le moment du coup de cœur de Jean-Christophe Brianchon pour « Seul l'amour peut te briser le cœur » de David Samuels aux éditions du Sous-sol. Et comme vous n'avez pas fait votre travail, j'ai noté que les traducteurs qui sont nombreux sont Louis Armango, Würmser, Johan-Frédéric Elgedge et Michael Gomez Guttart. De quoi s'agit-il? D'un épais volume encore?
D'un épais volume, effectivement, qui porte un titre qui est beaucoup plus sentimental que ne l'est réellement...
Contenu, il y a tromperie sur la marchandise.
Il y a un petit peu tromperie, mais en même temps une tromperie agréable, parce que je trouve ce titre très beau. Il s'agit en tout cas du livre d'un journaliste auteur. Alors c'est compliqué parce qu'on n'a pas réellement de mots pour décrire ce qu'est cette manière de faire, enfin ce métier en tout cas. Donc je ne sais si les journalistes ou auteurs, on va dire les deux.
Je sais pas qui
c'est. Donc David Samuels, qui est une personnalité intellectuelle de la vie intellectuelle américaine, universitaire, qui enseigne, me semble-t-il, à Columbia et New York University, qui est passé par Harvard, Princeton, qui a été donc journaliste pour le New Yorker, le Harper's Bazaar, qui est alors pas journaliste au sens réellement factuel et premier du terme, puisque justement il écrit dans ses revues américaines de longs textes, de longs reportages fictionalisés, on appelle ça de la narrative non-fiction, je crois, voilà, qui vise à nous décrire, enfin nous parler généralement bien plus que d'une personne ou d'un moment ou d'un fait, en tout cas de partir d'une personne, d'un moment ou d'un fait pour nous décrire plus largement à un moment donné du monde et nous décrire une société, quoi. Donc c'est des textes très longs qui font entre 15 et 20 pages. C'est une anthologie de ces textes-là, entre la première partie 94 et 2004, puis ensuite 2004 et 2016. Ça traite de tout, aussi bien du moment où Britney Spears s'est rasé les cheveux.
Moment essentiel de l'histoire du XXe siècle.
Moment
essentiel. 20e ou 21e?
21e, 2007, je crois. 2006 ou 2007.
Quelque chose à pas ça.
La pop culture, tout de même.
Oui, bon, on a eu ça chez Jean Rollin aussi, on n'a pas de mérite.
Et ensuite, bon, alors ça va, donc ça part de là, ça passe par nous parler de la tournée de concerts de Jay-Z et Kanye West, puis ensuite des textes très érudits et très techniques sur le nucléaire iranien, sur les coulisses de la Maison Blanche, des personnes qui écrivent entre autres les textes de politique internationale de Barack Obama à l'époque. Donc ça traite de tout, c'est très très ample, fait avec une intelligence absolument remarquable, parce que de tout il parvient à faire un fait sociologique, politique et intellectuel important. Alors bon, il traite pas non plus d'épiphénomène, parce que malgré tout, Britney Spears qui se rase les cheveux, c'est en soi pas très intéressant, mais ce qu'on en a fait a fini par pouvoir dire quelque chose du temps dans lequel ça s'inscrivait. Et lui parvient en 15 pages à en délivrer une analyse absolument remarquable. Et quel que soit le sujet qu'il traite, c'est non seulement sur un plan purement intellectuel vraiment remarquable, mais en plus c'est là que le titre n'est pas si trompeur que ça. Il parvient aussi à chaque fois à délivrer dans les récits qu'il nous fait une sentimentalité qui est loin d'être désagréable, qui est même très agréable, y compris dans les choses les plus inattendues. Parce que par exemple, il y a un texte qui, moi, est le texte qui m'a le plus marqué dans ce recueil, qui est un texte où c'est un des textes les plus longs. Je pense que ça fait environ 25 pages, où il nous décrit la vie d'un champ de course de lévrier dans une campagne un petit peu reculée des États-Unis. Jusque-là, je pensais voir à peu près de quoi il s'agissait. Il parvient à faire un portrait des gens qui gèrent ce champ de course, qui est absolument remarquable. Donc je pense que c'est un livre vraiment important et un geste d'éditeur aussi important. Il faut le souligner, parce que je pense que les éditions du sous-sol, ici, mènent un travail de, si ce n'est de réhabilitation, même d'habilitation de cette écriture, de la narrative non-fiction, qui est absolument nécessaire. Adrien Bosque le fait bien, y compris dans la revue Feuilleton qui le tient. Et je trouve que c'est, en plus d'être un geste littéraire important, un geste d'édition vraiment louable.
Bon, vous aimez bien le mot remarquable, hein, j'ai remarqué.
Oui, beaucoup, beaucoup.
Seul l'amour peut te briser le cœur, de David Samuels, édition du sous-sol. Traduction, Louis Armango, Wurmser, Jean-Frédéric Elgedge et Michael Gomez Guttart.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Dernière séquence de cette dispute littérature avec ce qui t'appartient de Garth Greenwell, publié chez Rivage dans une traduction de Clélia L'Aventure. Alors, le bandeau de couverture nous avertit qu'Edouard, lui, trouve ce roman bouleversant, radicalement contemporain, soit. Né en 78, l'écrivain américain a publié son roman il y a 2 ans aux États-Unis. Il y a question de la passion qu'un professeur américain installé à Sofia éprouve pour un jeune prostitué bulgare, Mitko. Thank you.
que ma première rencontre avec Mitko se soit soldée par une trahison, même mineure, aurait dû m'alerter davantage à l'époque et diminuer mon désir pour lui, voire l'abolir tout à fait. Mais dans un endroit tel que les toilettes du National Palace of Culture, où notre rencontre lieu, la moindre alerte devient indissociable de l'air, élément omniprésent, inévitable, et donc constitutif de ceux qui s'y aventurent, se mêlant au désir qui nous attire jusque-là. Je n'avais pas fini de descendre l'escalier lorsque j'entendis sa voix trop imposante, telle le reste de sa personne, pour ses pièces souterraines et qui s'en échappait comme afin de remonter vers l'après-midi radieux de mi-octobre, pourtant si peu automnal. Partout dans la ville, les raisins mûrs accrochés aux vignes laissaient encore éclater leur chaleur en bouche. Je fus surpris d'entendre quelqu'un parler si librement dans un lieu où, par un code tacite, les voix s'élevaient rarement au-dessus du murmure. Au pied de l'escalier, je versai mes 50 stotinki à une vieille dame qui leva les yeux vers moi depuis son poste de travail et attrapa les pièces avec une expression indéchiffrable. De son autre main, elle tenait un châle pour se protéger de la fraîcheur constante ici, en toute saison. Ce ne fut qu'en atteignant la fin du couloir que j'entendis une deuxième voix, pas haute comme la première, mais répondant dans un chuchotement. Les voix provenaient de la deuxième salle, sur les trois que comptaient les toilettes. Elles auraient pu appartenir à des hommes occupés à se laver les mains si elles avaient été accompagnées d'un bruit d'eau. Je marquai un arrêt dans la salle la plus éloignée, m'examinant dans les miroirs qui tapissaient ces murs en écoutant leur conversation, bien que je ne puisse en comprendre un mot. Il n'y avait qu'une seule raison à la présence de ces hommes ici, les toilettes du NDK, ainsi qu'on appelle le palace, étant suffisamment bien cachées et jouissant d'une réputation telle qu'elles n'ont guère d'autres usages. Et pourtant, à mon arrivée dans la salle, cette explication parut contredite par le comportement de l'homme qui retint mon attention. Cordial et impétueux, extraverti, en ce lieu d'intimité absolue. C'est le début que Garth Greenwell et son traducteur et sa traductrice Clélia L'Aventure me pardonnent pour tous ces savonnages de fin d'émission. Ça paraît chez Rivage, Ce t'appartient. Raphaël Léris, si vous commencez à nous parler de ce livre.
Alors, Ce qui t'appartient se présente comme une forme de confession, puisque le narrateur, donc ce professeur américain installé à Sofia, le dit, ma nature tend vers la confession. Et donc, il va se confesser sur ses rapports avec ce garçon, Mitko, un prostitué qui emploie un mot que je ne vais pas m'aventurer à prononcer, qui veut dire à la fois ami et client, et c'est toute l'ambiguïté autour de ce terme qui va définir leur relation. Le texte est en trois chapitres. Le premier, c'est Mitko. Le deuxième, c'est Un tombeau, qui concerne la vie aux États-Unis du narrateur et en particulier des scènes de honte et de violence liées à son homosexualité avec son père et puis avec son meilleur ami. Et puis la troisième partie, la vérole. Revient sur ces liens avec Mitko et on arrivera à une dernière scène que je trouve assez déchirante entre eux. Moi, c'est un texte qui m'a ému, qui m'a plu. Je sens que votre détestation d'Edouard Louis vous entraîne
pas. Je déteste pas Edouard Louis. Je m'inscris absolument en faux. Je n'ai rien contre cette personne. Je parle des livres ici.
Attention.
Non, mais j'ai beaucoup aimé son premier livre. Hein. Moins les suivants. Malheureusement, je ne déteste personne. Attention.
Toujours est-il que je trouve le début que vous avez lu effectivement un petit peu poussif. Et il me semble que la suite, racontant les liens entre ces deux hommes, est beaucoup plus fluide, beaucoup plus émouvante, qu'on est du côté de, qu'on est donc dans la tête de cet Américain, mais que Mitko existe lui-même, que ça n'est pas juste un faire-valoir de cet Américain qui permettrait de mettre en évidence ce que c'est que d'être homosexuel dans un pays comme la Bulgarie aujourd'hui, qui pourrait rappeler le Kentucky des années 90 dans lequel il a grandi, dans la honte, la poésie du miasme et un mélange entre le désir et la détestation de soi. Je trouve que par ailleurs, la mise en scène de ce lien constant entre le désir de la détestation et la détestation de soi fait la force de ce texte. Voilà.
Bon.
Non, je m'attendais pas.
Mais non, mais je vous redonnerai la parole au besoin. Jean-Christophe Briançon.
C'est un texte assez compliqué, je trouve, et de manière assez paradoxale, justement, sur le plan, on va dire, linguistique, quasiment, parce que ça se présente formellement sous le jour d'une langue quand même assez simple, finalement, mais qui pourtant peine à se faire lire. Et c'est peut-être ce qui, moi, m'a posé le plus souci, puisque, bon, pour ce qui est du fond de ce que Garth Greenwell nous raconte et de ce que ce narrateur vit, c'est indéniablement émouvant et d'une certaine manière peut-être important de le raconter de cette manière-là, sous la forme de fiction. Mais bon, la forme rentre vraiment en opposition avec le fond et nous empêche, moi en tout cas, m'a empêché de ressentir correctement ce qui devait être ressenti. On l'a vu, je trouve, très bien justement dans cette page d'ouverture qui, moi, j'ai dû honnêtement la relire 3 ou 4 fois avant de pouvoir avancer et tourner et passer à la page d'après, parce que je trouve que c'est une langue assez, voilà, assez paradoxale, à la fois très simple et en même temps sur laquelle on bute, sur le qui peine à se faire lire, qui est assez lourde. Et bon, après, en dehors de ça, j'ai pas compris tous les désirs de cet auteur, entre autres justement l'omniprésence d'une Bulgarie qui finalement est très absente sur le plan de, on va dire, théorique, quoi, sur ce qu'elle nous apporte dans la compréhension de cette histoire, puisque il ne nous fait pas réellement un tableau de ce pays et de cet instant-là donné du monde. Donc le fait que ça se passe en Bulgarie finalement n'est pas très important, et pourtant il rajoute à la spatialisation de l'histoire une complexité ou un ancrage linguistique par un amas de mots en bulgare qui sont censés là aussi par leur ambiguïté ou par leur complexité à être traduits, nous amener à une certaine compréhension de l'histoire, mais qui pourtant finalement ne nous amène pas réellement quelque part dans la compréhension autre de cette histoire. Donc voilà, je trouve que sur un plan sur un plan de la littérature, j'ai trouvé ça assez compliqué. Et puis après, ce qui est du découpage, je trouve aussi que le découpage, contrairement à Julian Barnes, est assez peut-être un petit peu trop clair, quoi. Il y a vraiment la rencontre, l'avant, pour nous faire comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de cette histoire et des raisons qui fait qu'aujourd'hui il vit de cette manière-là. Bon, et puis ensuite, effectivement, c'est cette dernière partie qui nous amène à une scène de clôture du livre qui est effectivement déchirante et qui, pour moi, redonne sens à ce livre, parce que m'a permis de comprendre finalement ce que ce livre ne m'avait pas, dans les pages précédentes, permis de comprendre, entre autres, qu'il s'agit non pas seulement de l'histoire d'une personne homosexuelle qui aurait eu connu dans sa vie des problèmes pour vivre pleinement et être pleinement la personne qu'il est, mais au-delà de ça, c'est aussi l'histoire d'un caractère, d'un caractère qui accepte de se détacher de tout, d'avancer coûte que coûte tout le temps pour réussir à être ce qu'il est, et donc bien au-delà de sa sexualité ou de la concrétude de ce qu'il nous raconte. Et là, à cet instant-là, j'ai trouvé ça très intéressant. Malheureusement, ça n'arrive que dans les 15 ou 20 dernières pages.
Ah oui, c'est vraiment la toute fin, comme bientôt la toute fin de cette émission. Bon, je trouve que c'est effectivement, c'était pénible, peut-être pas, mais enfin, pénible à lire au sens où il n'y a pas de fluidité. C'est vrai que tous ces mots, ces expressions, ces bouts de phrases bulgares, je pense qu'il y en a quand même tellement, je ne vois pas bien quel est le projet littéraire derrière ça. Ça ne fait qu'alourdir et ralentir la compréhension même des phrases, donc c'est un peu compliqué. Sur l'histoire, je pense qu'en effet, moi je préfère Revoir l'homme blessé, ou lire, j'arrive pas à retrouver le nom de ce sociologue américain qui avait publié une enquête absolument formidable sur les toilettes publiques comme lieu de rendez-vous homosexuel. C'est un texte assez capital, pour le coup, pour reprendre le terme de votre ami Edouard Louis, qui, bon, texte capital concernant ce qui t'appartient, là je ne peux en effet pas souscrire et pas être tout à fait de cet avis, et de même que de citer Jean Genet sur la quatrième de couverture me paraît extrêmement abusif pour un texte dont la dimension littéraire m'a pour beaucoup échappé, même s'il y a une forme d'émotion, effectivement, la fin est émouvante, mais voilà, qu'est-ce qu'il aura fallu passer comme
comme obstacle quasiment pour y parvenir. Tout petit mot, Raphaël Léris.
Moi, je voudrais dire qu'il y a des, les scènes de sexe sont magnifiques. Je trouve qu'il les décrit très bien. Pour moi, c'est quand même un sacré.
On allait relancer le débat. Moi, je suis pas persuadé non plus, mais bon.
Ah voilà, moi je les trouve très réussis. Ah, ouais. Et pour moi, la difficulté à lire, c'est aussi cette espèce de ce côté perdu en Bulgarie, c'est aussi la difficulté à lire ses propres désirs. Peut-être que c'est trop plaqué. Mais alors sur moi, ça fonctionne. Bon. Je sais pas si c'est un argument hyper, mais sur moi, ça fonctionne. Et voilà. Et pour moi, que la fin aboutisse à quelque chose d'aussi déchirant, ça en fait un livre qui existe. Peut-être
bon.
À Jean Genet.
Bon, ce qui t'appartient, lisez par vous-même. Ce livre de Garth Greenwell, publié chez Rivage, en une traduction de Clélia L'Aventure. Et avant de conclure l'émission, le jeu de la disputée, Sarah Dion nous a rejoint, qui va d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir, avant de donner la réponse, Sarah.
Dans quel département français se déroule le grand bal de Laetitia Carton?
Et la réponse était
L'Allier.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour l'exposition Chagall du noir et blanc à la couleur. C'est à l'hôtel de Caumont, Aix-en-Provence, jusqu'au 24 mars. Quelle est la question?
La question est: quel est le nom de la technique picturale consistant à peindre à l'encre de Chine?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfcr@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Demain, rendez-vous au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio. Avec Charlotte Garçon, Philippe Azoury et Julien Gester, nous parlerons de Sophia Antipolis de Virgile Vernier, Le Grand Bal, justement, de Laetitia Carton, et En Liberté de Pierre Salvadori. Julien Gester délivrera son coup de cœur pour First Reform de Paul Schrader.